La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
Le sujet que je vais vous présenter cet après-midi a pour titre « La controverse et votre santé ». Présenterez vos corps en sacrifice, nous dit Romains 12, verset 1. Slide suivante. Alors, il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon. Et le dragon combattait avec ses anges. Et ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne se trouva plus dans le ciel. Et le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit tout le monde, fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Quand Satan est venu sur la terre, il n'était pas aussi intéressé par cette planète, mais il était plus intéressé par les hommes, par Adam et Ève. Il voulait un royaume pour régner. Et un royaume est composé de sujets, n'est-ce pas ? Aussi bien que des biens immobiliers. Adam et Ève étaient définitivement des sujets spéciaux, puisqu'ils ont été créés à l'image de Dieu. Puisque Dieu a donné à l'homme le pouvoir de choisir, il a pu choisir son maître. Si Satan pouvait faire que ses gens le suivent, au lieu de suivre Dieu, il aurait son royaume. Avec la chute d'Adam et Ève, la controverse entre Satan et Dieu est devenue une chose beaucoup plus pertinente pour quiconque serait né plus tard dans la famille humaine. Donc ce monde devenait maintenant la domination de Satan. Et tout semblait désormais désespéré pour ses habitants. Mais Dieu avait un plan que nous connaissons tous, qui impliquait le rachat de ce monde et les habitants qui choisiraient de lui suivre. Cela ne pourrait être fait qu'à un prix infini. Cela signifierait la mort du Créateur lui-même. Avec la mort de Jésus, sur la croix, chaque homme a reçu le pouvoir de choisir quel roi il servirait. Nous prenons cette décision tous les jours dans les choix que nous faisons. Cela rend nos processus de prise de décision extrêmement importants pour nous. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné des informations sur la façon dont nous pouvons garder notre esprit qui fonctionne correctement. La condition du corps, dans son ensemble, sera souvent un baromètre de l'état du cerveau. Et ça, on va le voir plus tard. Le cerveau qui est le centre de décision. C'est parce que le corps et le cerveau dépendent de la même nourriture, de l'oxygène, de l'eau pour survivre. Un corps sain est important pour un esprit sain et qui fonctionne bien. Et un esprit sain qui fonctionne bien est absolument essentiel pour prendre de bonnes décisions. L'homme a été attaqué et dégradé pendant 600 ans de péché. Nos corps et notre esprit ne sont pas aussi puissants que ceux d'Adam. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas tenir compte du conseil de Dieu. Nous ne pouvons pas dépendre de la philosophie humaine ou de la science médicale. Plusieurs fois, ils peuvent être une aide, donc la science médicale, la philosophie humaine, peuvent être une aide, mais nous ne pouvons pas nous appuyer dessus, seul. Dieu a créé notre corps, il sait mieux comment prendre soin de nous. Donc le champ de bataille sera notre corps. Philippiens 1, verset 20 nous dit « Christ sera glorifié dans mon corps ». La cellule est le bloc de construction de base du corps humain. Et nous avons la cellule qui forme, plusieurs cellules forment des organes et plusieurs organes forment des systèmes. D'accord ? Et pour qu'elle puisse bien fonctionner, cette cellule, dont les organes et le système, il leur faut de la nourriture. Donc nous avons l'eau, l'oxygène et les nutriments. Les chrétiens ont besoin aussi, on compare avec les chrétiens, ils ont aussi besoin de la prière, qui est l'oxygène, de l'étude de la Bible, la nourriture, et de l'eau de vie. La nourriture fournit deux choses matérielles pour la construction et la réparation des cellules, le plus souvent fournie par des protéines. Le matériel pour la conservation en énergie, généralement fourni par les glucides et les graisses. Ce n'est que pendant des périodes de famine que la protéine est utilisée comme source d'énergie. Nous avons besoin de nourriture spirituelle pour construire notre santé spirituelle, pour nous amener à la repentance, c'est-à-dire à la réparation, et pour alimenter pour un service énergique. Slide suivante. La nourriture est décomposée pendant le processus digestif en ces blocs de construction, les protéines, les acides aminés, les graisses, les hydrates de carbone sont tous dégradés. C'est ce qui va permettre de nourrir nos cellules à travers, ils vont passer dans le sang pour arriver jusqu'à nos cellules. Beaucoup de gens croient que la nourriture est transformée en énergie dans l'estomac. Mais ce n'est pas le cas. La décomposition de la nourriture est un petit nutriment absorbable de produits dans l'estomac et dans l'intestin grêle. Mais aucune énergie utilisable n'est acquise dans ce processus. La centrale électrique du corps, où la nourriture est convertie en énergie, est située dans les mitochondries, c'est-à-dire directement dans la cellule, dans chaque cellule. On peut l'assimiler à un pasteur qui offre la nourriture spirituelle de la parole de Dieu à la congrégation. Mais il ne donne pas d'énergie spirituelle jusqu'à ce que le Saint-Esprit aide l'esprit de l'individu à absorber et appliquer personnellement la vérité qui est prêchée. Ce qu'il faut, c'est que nous comprenions que nos cellules ne fonctionneront correctement que lorsqu'elles auront les nutriments nécessaires. Vous ne vous attendez pas à ce que votre voiture fonctionne sans eau, sans carburant. Il faut de l'eau et du carburant pour qu'elle puisse fonctionner. Pourquoi nous attendons à ce que notre corps fonctionne correctement alors que nous ne sommes pas en connexion avec notre Créateur? Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Nous dit Ésaïe 55, verset 2. Tout à l'heure, je vous ai parlé de bataille qu'il y a. Et maintenant, je vais vous parler du prix. Et je le compare à l'esprit. Quand nous considérons que c'est par le système nerveux que nous sommes capables de voir, d'entendre, de sentir, de parler, de respirer, donc la slide suivante, donc le système nerveux, et que dans l'esprit sont stockés tous les renseignements d'une vie, et que c'est le seul moyen par lequel Dieu peut communiquer avec l'homme, nous pouvons voir que cette division du corps humain est de la plus haute importance. Avec l'esprit, je sers moi-même la loi de Dieu, dit Romains 7, verset 25. On estime que le système nerveux central est constitué de 14 milliards de cellules nerveuses appelées neurones. Chacune de ces cellules a besoin de nourriture, d'oxygène, d'eau, comme toutes les cellules vivantes. Comme nous l'avons vu plus haut, un système est composé de cellules qui peuvent ne pas être de structure identique, mais qui partagent une fonction commune. Dans le cas du système nerveux, la fonction est de fournir au corps des informations sur l'environnement interne, mais externe aussi. De prendre des décisions basées sur ces informations avec l'expérience passée et de transmettre des impulsions nerveuses aux divers endroits du corps qui devront réagir à un stimuli. Donc le stimuli interne ou externe est détecté par une cellule réceptrice qui sont les cinq sens, qui transmettent des informations au centre de décision via un neurone afférent. Le cerveau est le centre de décision et la réponse décidée est transmise à l'endroit approprié par un neurone efférent. Donc on a un neurone afférent entrant et un neurone efférent sortant. Cela nous rappelle que le Christ est le chef de l'Église et que sa volonté est transmise aux membres appropriés de son corps par la capacité de réseautage du Saint-Esprit. Alors là, nous allons voir un exemple d'entrée et de sortie avec ces récepteurs, avec ce qui est affiché ici. Donc le récepteur, dans cet exemple, est l'œil, le nerf afférent est le nerf optique, et le nerf efférent est un nerf moteur qui descend de la moelle épinière vers un moteur se terminant sur un muscle dans sa jambe. Alors, est-ce que vous voulez que je pointe ou c'est bon? Non, c'est bon? D'accord. Donc, la réponse est de contacter le muscle qui nous amène à nous éloigner de la balle venant en sens inverse. Comme vous pouvez le voir, cela a été considérablement simplifié. En réalité, il y aurait des centaines ou des milliers de signaux entrant et sortant en même temps. Et le processus de la prise de décision impliquerait de reconnaître que l'objet était à quelle vitesse il voyageait. Quel serait le résultat s'il était autorisé à frapper votre visage et bien d'autres choses encore? En parallèle, spirituellement, de cet exemple, un chrétien perçoit un besoin, comme l'œil dans cet exemple. Il envoie une prière à Dieu, comme le nerf afférent. Le Christ prend une décision sur la façon de répondre à la prière, puis il envoie une réponse, comme le nerf efférent, provoquant peut-être la personne qui a perçu le besoin d'être un moyen de pouvoir à ce besoin. Donc il envoie une personne où il peut y avoir... Le Seigneur peut mettre devant nous une personne qui va répondre à notre prière, ou par le biais de la nature. Il utilise nos prières et nos actions pour communiquer avec nous. Prochaine slide. Faisons maintenant un exemple un peu plus complexe, en donnant au cerveau un choix de réponse. Notre stimulus, dans cet exemple, sera une tasse de café qui est apportée, par exemple, dans cette pièce. Le café, bien sûr, a un arôme très distinct. Et disons que nous connaissons cette odeur et l'association au café. Par souci de simplicité, nous dirons que nous n'avons que deux choix possibles. Le premier choix est de dire « Oui, merci ». J'en veux, et de prendre la tasse. Et le deuxième choix est de dire « Non, merci, je n'en veux pas ». Les récepteurs, dans ce cas, sont les détecteurs olfactifs, donc l'odeur, dans le nez, le nerf afférent et le nerf olfactif qui transmettent l'information au cerveau. Le cerveau doit maintenant prendre une décision entre deux réponses. Une fois la décision prise, le nerf efférent approprié remplit la fonction. Si oui ou non, nous prenons de ce café. Le Seigneur nous a dotés de facultés et d'un pouvoir de l'esprit, d'accepter ou de refuser. Nous avons le choix. Et dans ce que je vous ai décrit, c'est le mécanisme que le Seigneur emploie. Il nous a pour nous laisser le choix, en fait. On est capable de dire oui ou de dire non. Et c'est en cela que nous avons des facultés qu'il nous faut développer. Donc nous devons développer la volonté et le self-control. Donc dans notre expérience précédente, la décision de boire ou non du café est influencée soit par la plus faible puissance de l'appétit, soit par le pouvoir supérieur de la raison et de la conscience. L'appétit vous dit que le café a bon goût, du moins en ce qui concerne certaines personnes, alors que la raison et la conscience vous disent que c'est nocif pour vous et que vous ne devriez pas le boire. Le pouvoir qui prend la décision s'appelle la volonté, la capacité de faire des choix ou d'exercer la volonté est distinctement humaine. Les animaux n'ont pas les pouvoirs les plus élevés qui leur permettent de prendre des décisions en fonction de ce qui leur convient le mieux. Ils sont gouvernés par les puissances inférieures Ils sont gouvernés par les puissances inférieures. Donc ça peut être les personnes qui disent « Ben oui, j'en veux de ce café ». Donc, il cède à l'appétit. Cela ne signifie pas que les animaux ne peuvent pas être conditionnés ou entraînés dans une certaine mesure, auquel cas le maître de l'animal devient le pourvoyeur supérieur. Il en va de même dans la formation des jeunes enfants, car les pouvoirs supérieurs ne sont pas encore suffisamment développés pour que l'enfant prenne des décisions appropriées. Le parent doit prendre ce contrôle. Le parent doit utiliser ses pouvoirs supérieurs pour aider l'enfant à prendre des bonnes décisions. Malheureusement, dans notre monde aujourd'hui, même par les chrétiens, ces puissances supérieures ne sont pas correctement développées et prises en compte. Quand on parle de puissance supérieure, je veux dire la volonté et le self-control. Slide suivante. Donc dans ce slide, on voit utiliser la volonté. Donc en haut, forte volonté et en bas, faible volonté. La volonté est la puissance dirigeante dans la nature de l'homme, entraînant toutes les autres facultés sous son empire. La volonté n'est pas le goût ou l'inclination, mais c'est le pouvoir de décision qui travaille dans les enfants, les hommes, à l'obéissance de Dieu ou à la désobéissance. C'est Madame White qui le dit dans Volume Testimony 5, page 513. Elle dit aussi, le tentateur a besoin de comprendre la vraie force de la volonté. C'est la puissance qui gouverne le pouvoir de décider, de choisir. Tout dépend de la bonne action de la volonté. Les désirs du bien et de la pureté sont justes. Loin de là, mais si nous nous arrêtons ici, ils ne serviront à rien. Beaucoup tombent en ruine en espérant et désirant vaincre leurs mauvaises tendances. Dans Testimonies 1, page 387, il nous dit « L'esprit et les nerfs acquièrent du tonus et de la force par l'exercice de la volonté. Le pouvoir de la volonté, dans de nombreux cas, s'avéra un puissant apaisement des nerfs. Lorsque nous nous entraînons et que nous acquérons de bonnes habitudes, chaque jour, nous faisons la volonté du Seigneur, cela apaise aussi nos nerfs. Ils sont moins sollicités. Quand la volonté est placée du côté du Seigneur, le Saint-Esprit prend cette volonté et la fait un avec, avec sa volonté. Il a été constaté que lorsque nous prenons des décisions, nous établissons des voies nerveuses dans le cerveau. Chaque acte de vertu ou de vice laisse une marque indélébile. Comme nous continuons à prendre ces mêmes décisions, ces voies préférées augmentent physiquement en diadème. Avec une augmentation de la taille, vient une diminution de la résistance au flux électrique. Ceux-ci sont maintenant devenus des habitudes et une fois établis, ils sont très difficiles à surmonter. Tout comme une personne devient un ivrogne par autant de boissons, de la même manière qu'une personne devient un expert dans un domaine pratique ou scientifique par autant d'actes séparés et d'heures de travail. D'un côté, nous exerçons notre volonté à faire, par exemple, dans le domaine scientifique, à faire des analyses, par exemple. Et d'un autre côté, donc ce sont des bonnes habitudes de travail. Et d'un autre côté, nous avons, un sentiment d'infériorité, par une solitude, vous avez des personnes qui vont prendre de l'alcool et ça va devenir une habitude, un besoin, ça va devenir un besoin vital. Donc reprenons notre exemple pour montrer ce qui se passe dans l'établissement d'une habitude. Imaginons que nous continuons à accepter le café. Comme le montre le dessin, la mauvaise habitude est renforcée par l'exercice, tandis que la bonne habitude s'atrophie ou se rétrécit. Dieu nous a donné le secret pour surmonter les voies préférentielles indésirables. Nous lui soumettons notre volonté et ensuite, par son pouvoir surnaturel, il redirige le chemin vers un chemin plus désirable. La prochaine fois que cette tentation nous arrivera, nous devrons à nouveau lui soumettre notre volonté et il nous fournira le pouvoir de nous rediriger dans le bon chemin. Je mettrai ma loi dans leur partie intérieure et je l'écrirai dans leur cœur, nous dit Jérémie 31, verset 33. La mauvaise voix diminue et la bonne voix augmente. C'est ce qui se passe aussi au niveau de notre cerveau, au niveau du flux nerveux, de la connexion de nos neurones. Donc le flux nerveux passe et quand nous prenons de bonnes habitudes, ces connexions grossissent et l'influx nerveux passe. Mais c'est la même chose aussi pour nos mauvaises habitudes. La connexion se fait des deux sens. Et quand on a de mauvaises habitudes, ça devient difficile de réparer cela. D'accord ? Et le Seigneur nous demande de soumettre notre volonté, de lui soumettre notre volonté, pour qu'il puisse réparer cette connexion. Slide suivante. Car Dieu ne nous a point donné un esprit de timidité, mais de force et de charité et de prudence, nous dit 2 Timothée 7, verset 7. Slide suivante. Il y a une relation étroite entre notre cerveau et notre ventre. Et on va dire notre intestin. Slide suivante. Non, reviens juste avant. avant d'arriver justement à ses intestins, on voit sur la photo là, donc une coupe du cerveau où on a le siège de la conscience, le lobe frontal. D'accord ? C'est aussi là où on prend nos décisions. D'accord ? Et c'est là qu'il y a guerre pour nous. Parce qu'on voit dans le monde que tout est fait pour solliciter ce lobe frontal et amoindrir nos décisions. Alors, quels sont les stimuli qu'il y a dans le monde que Satan met devant nous pour stimuler à outrance ce lobe frontal? Internet, donc la télé, la musique, oui, la télévision, quoi d'autre? Le téléphone portable, à travers ses ondes, le manque de sommeil, oui. Oui, oui, quand on manque de sommeil, nos décisions, on n'est pas concentré, tout à fait. Quel autre stimuli il y a qui peut amoindrir notre centre de décision?
Le manque d'eau.
Le manque d'eau. Oui. Le manque de nourriture, ben, bien sûr. Une vie stressante, des habitudes de vie, métro, boulot, dodo. Mm-hmm. La cigarette, l'alcool, la drogue, la pollution aussi, les perturbateurs endocriniens. Oui, si on habite sur des fils à haute tension, oui, cela perturbe. Tout à fait. Mais là, je vais vous parler plus précisément de cette connexion intestin-cerveau. Slide suivante, oui. Entre intestin et cerveau, une interaction permanente. L'intestin et le cerveau sont étroitement connectés. Le système nerveux central est en interaction permanente avec le tube digestif. Est-ce que vous le savez ça? Ou est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Oui? Deuxième cerveau, tout à fait. Donc vous en avez déjà entendu parler un peu. Cette connexion est bidirectionnelle. Et se fait avant tout par les voies nerveuses sympathiques, donc nerfs splaniques et parasympathiques, nerfs vagues, du système nerveux autonome. D'ailleurs, 95% de la sérotonine est produite au niveau de l'intestin et prend part aux échanges entre le cerveau et l'intestin via le nerf vague. Donc on voit qu'il y a une connexion des deux sens entre le cerveau et nos intestins. La sérotonine est un neurotransmetteur, parfois aussi appelé hormone de la sérénité, qui régule une vaste gamme de fonctions comme l'humeur ou le comportement. Entre le cerveau et l'intestin, un troisième acteur s'est glissé. C'est le microbiote intestinal qui prend part également à ce mystérieux dialogue. Alors, tout à l'heure, on a parlé de volonté, d'habitude. Et là, je suis en train de vous parler des intestins, l'étroite relation qu'a les intestins avec le cerveau. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vient vous interpeller dans ce que je viens de vous dire? Donc, si ça influence notre cerveau, ça influence quoi? Notre volonté.
Notre volonté, en bien ou en mal.
Tout à fait. Tout à fait. Ça veut dire que, par exemple, je vais manger du pain. Alors, non, je ne vais pas prendre cet exemple-là. Je vais prendre l'exemple de mon fils. Si on donne à Evan le soir, si on le laisse manger du sucre, le soir, l'enfant va être comme une pile. Mais il va aussi se gratter partout. On le voit à l'école, quand on donne des goûters aux enfants bourrés de sucre, avec beaucoup de gâteaux, avec beaucoup d'addictifs, les enfants sont... Ils vont à droite et à gauche. Des vraies piles. Donc là, on ne va pas leur parler de volonté, de rester bien assis, de rester calme, alors qu'on leur a donné du sucre juste avant. Il y a un non-sens. Il faut que nous apprenions à nous connaître nous-mêmes, à savoir quel aliment me va, me fait du bien, et quel autre aliment ne me va pas. Par exemple, vous avez des personnes qui ont les intestins tellement poreux, tellement abîmés, qu'ils ne peuvent pas manger de crudités. S'ils mangent des crudités, ils sont malades. Mais ça altère aussi leur volonté, leur humeur. D'accord ? Donc, il nous faut apprendre à savoir quel aliment va, me va, ou quel aliment ne me va pas. On parle aussi de microbiote. Est-ce que vous savez c'est quoi le microbiote ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Alors, nos intestins sont colonisés par des milliards et des milliards de bactéries nuisibles ou pas nuisibles, en plus grande quantité de non nuisibles. Nous avons quelques bactéries quand même nuisibles qui interagissent. C'est-à-dire que quand vous mangez, donc il y a le processus de la digestion, arrivé à nos intestins, ces bactéries vont interagir avec nos aliments. Et eux aussi peuvent influencer notre cerveau, donc notre volonté. Satan, quand il a tenté Ève, c'est pas pour rien qu'il est passé par l'alimentation. Ce qu'il a touché là, mais à la fois ici. D'accord ? Notre ventre. Mais Dieu merci, le Seigneur nous donne la solution. Il nous dit de soumettre notre volonté à sa volonté. Et c'est là la clé. C'est la soumission de notre volonté au Seigneur. Slide suivante. Quel est le rôle du microbiote intestinal sur le stress, l'anxiété et la dépression ? Car nous sommes dans une société où de plus en plus les gens sont stressés, anxieux et dépressifs. Oui ? Ou non ? Oui, de plus en plus. Même si les mécanismes ne sont pas encore clairement élucidés, on sait que le microbiote intestinal agit sur le cerveau, par les voies sanguines et nerveuses, via la sécrétion et la libération de certaines molécules. Dans le corps, il y a des échanges. Et notre microbiote, ces micro-organismes sécrètent des substances qui vont aller dans le flux nerveux et dans le sang et vont être décryptées par le cerveau. Et c'est pour cela que si, par exemple, si mon enfant mange du sucre, tout de suite, le microbiote va interagir et l'information va aller au cerveau et ça va être un stimulus. Cette communication intestin-cerveau a conduit les chercheurs à s'intéresser au lien possible entre un déséquilibre au niveau du microbiote intestinal et certains troubles psychiques fréquemment rencontrés comme le stress et l'anxiété. Première découverte, le microbiote intestinal, semble avoir un effet modérateur sur la réponse du stress. Chez les souris, axénique, donc sans microbiote intestinal, une recherche a montré une hypersensibilité au stress, avec une augmentation à la concentration, avec une augmentation de la concentration sanguine d'une hormone liée au stress, le corticostérone, donc du cortisol, chez ces animaux. En corollaire, d'autres études ont montré que l'administration de bactéries probiotiques à des rats et des souris permettent d'atténuer la libération de corticostérone provoquée par des situations stressantes. Là, on est en train de nous dire que si notre microbiote est pauvre en micro-organismes, on sera plus sensible au stress. Et n'importe quel stress. Alors que si notre microbiote est riche en micro-organismes, nous pourrons gérer ce stress. Et cela a été démontré dans cette étude qu'ils ont faite avec les souris. Slide suivante. Des études ont également constaté des modifications de la composition du microbiote intestinal chez les rongeurs présentant un comportement dépressif. Chez l'homme, la présence d'une dysbiose chez les patients dépressifs a également été examinée. Là, on est en train de nous dire que la dépression, l'anxiété, le stress est lié à quoi ? À une dysbiose intestinale, à un manque de micro-organismes. Ira nous disait ce matin que le Seigneur, quand il a mis Adam et Ève, il a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Mais c'était pour les instruire, pour les enseigner. La nature est là pour nous instruire et nous enseigner. Et vous avez des chercheurs qui ont démontré que la nature, les arbres, communiquent entre eux. Par quel intermédiaire communiquent-ils ? Par leurs racines, ils sont connectés. Donc, la nature est là pour nous enseigner aussi comment notre corps fonctionne. Et quand on regarde bien, la terre, nous sommes faits de terre, est constituée de quoi ?
Tous les sels minéraux qui se trouvent dans les aliments.
Les sels minéraux.
Calcium, magnésium, etc.
Mais plus encore.
Il y a aussi les vitamines.
L'air, l'oxygène, oui, ce ne sont pas des mauvaises réponses. Mais il y a une chose qu'il y a dans la terre et dont on est formé.
Ah oui.
Oui, des mêmes minéraux. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des bactéries ? Des micro-organismes ? Comment ? Du sélénium. Et ça, quand la terre est dépourvue de micro-organismes, c'est une terre qui est pauvre. C'est pareil pour nos intestins. Quand c'est dépourvu de micro-organismes, nous sommes sujets au stress, à la dépression et autres maladies. L'ensemble de ces recherches suggère que le microbiote intestinal joue un rôle sur nos comportements et notre réactivité émotionnelle. D'ailleurs, récemment, une équipe de chercheurs américains a montré que les femmes ayant consommé durant un mois un produit laitier enrichi en probiotiques accordaient moins d'attention à ces stimuli émotionnels négatifs, comme des visages exprimant de la peur ou de l'anxiété. Des recherches sont à poursuivre. L'année dernière, j'étais en formation pour suivre des femmes enceintes, donc de la conception à l'accouchement. Et la première chose que le médecin nous a dit dans cette formation sur les compléments alimentaires qu'on pouvait leur conseiller, il nous a dit pendant toute la grossesse et même avant la conception, dites aux femmes de prendre des probiotiques. C'est qu'il savait que cela a de l'importance pour la bonne évolution de la grossesse, mais surtout pour le psychisme de l'enfant et qu'il soit moins sujet au stress, à l'anxiété. Ça fait des bébés heureux. Je l'ai vu chez certaines femmes qui ont pris ces probiotiques, qui l'ont fait de façon avec des compléments alimentaires, mais aussi de façon naturelle, parce que par exemple, vous avez le kombucha qu'on a bu lundi, vous avez d'autres aliments qui sont riches aussi en pré-probiotiques et en probiotiques. Donc là, ils sont en train de nous dire, quand vous connaissez une personne, ou même pour vous, qui est anxieuse, stressée, recommandez ces pré-probiotiques ou ces probiotiques. Ça veut dire que la personne qui est anxieuse, ou peut-être vous-même, a un désordre au niveau de ses intestins, a une dysbiose intestinale. D'accord ? Slide suivante. Un lien entre microbiote intestinal et maladie neurodégénérative. On va les voir un peu, on va les voir tout à l'heure. On a vu en premier lieu que ça agissait sur notre humeur, nos émotions. On est plus sujet au stress, à l'anxiété et autres. Mais là, je suis en train de vous montrer qu'il y a un lien étroit avec les maladies neurodégénératives. Donc, eux, ils partent d'hypothèses de travail. Deux hypothèses de travail sont évoquées sur ce type de maladie. L'action du microbiote intestinal sur le système immunitaire, d'une part, et l'axe cerveau-intestin, d'autre part. Quelle est notre première barrière intestinale ? Quelle est notre première barrière immunitaire, pardon. J'ai donné la réponse. La peau, et en second lieu, le système lymphatique. Oui, parce qu'il a dit la peau. Oui, mais justement, on a la peau, mais le système lymphatique est juste en dessous, justement. Oui. Et en deuxième, nous avons le système immunitaire qui se trouve dans les intestins. Ce qui veut dire que quand vous avez des personnes qui ont une maladie neurodégénérative, il faut qu'ils aillent regarder aussi du côté de leur intestin. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'ils mangent? Quel aliment mangent-ils qui interagit avec leur microbiote? Comment sont nourris ces micro-organismes qui sont à l'intérieur de nous? Slide suivante. On va voir l'exemple de la sclérose en plaques. Donc, dans la sclérose en plaques, les hypothèses à date sont fondées sur des études expérimentales conduites chez l'animal uniquement. Donc, sur cette source, ils disent conduites chez l'animal uniquement. Mais moi, je vous dis que aux États-Unis, l'expérimentation a déjà été faite sur les êtres humains et avec grand succès. Les données sont encore indirectes, mais le microbiote intestinal pourrait jouer un rôle dans l'apparition ou le développement de la maladie, de par notamment ses fonctions immunitaires. Les mécanismes complets en cause ne sont pas encore clarifiés. Des études sont en cours chez l'homme pour rechercher l'existence de potentielles dysbioses dans la sclérose en plaques. Mais des études montrent que le système immunitaire de ces personnes qui ont la sclérose en plaques est drôlement attaqué au niveau intestinal.
Oui, mais c'est à cause de la porosité intestinale, en fait. C'est une maladie auto-immune.
C'est
à cause de la porosité intestinale, notamment.
Voilà. La porosité, on parle de porosité intestinale, c'est-à-dire qu'au niveau des intestins, la jonction, au lieu d'être serrée, va être ouverte. Et les grosses molécules, donc les grosses protéines, vont passer et aller directement dans le sang et enflammer l'organisme. L'expérience, alors ce n'est pas des expériences, c'est plus des traitements.
Non, pas encore.
Oui, voilà. Plus des expériences et des expériences de guérison qui ont été faites aux États-Unis avec l'alimentation, avec des compléments alimentaires à haute dose, il y a eu rémission de la sclérose en plaques. Slide suivante. Pour la maladie de Parkinson, une étude finlandaise récente a mis en évidence des différences notables entre la composition des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et un groupe témoin. Dans cette étude, la relative abondance d'entérobactéries chez les patients atteints de la maladie de Parkinson a été associée positivement à la sévérité des symptômes d'instabilité posturale et de difficulté à la marche. Une autre étude a montré une altération de la barrière épithéliale intestinale chez les personnes atteintes de Parkinson. Donc là encore, on voit que la barrière intestinale, si elle est poreuse, c'est-à-dire qu'elle laisse passer les grosses molécules, peut entraîner chez certaines personnes la maladie de Parkinson. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce sont des maladies qui sont dites évolutives, c'est-à-dire qu'elles prennent des années à se former. Mais pendant qu'elles se forment, il suffit qu'il y ait une émotion énorme, un décès par exemple, ou une perte de travail, pour que là, la maladie pointe son nez. Mais elle est là depuis longtemps. D'accord ? Cette destruction de la barrière intestinale, elle ne se fait pas du jour au lendemain. Une autre... C'est également le cas pour la maladie d'Alzheimer, où les chercheurs s'attachent à mieux comprendre les liens entre fonctionnement du microbiote intestinal et des dérèglements qui surviennent au cours du vieillissement normal de la maladie d'Alzheimer. Là encore, j'ai des études et des vidéos qui montrent, par exemple pour la maladie d'Alzheimer, qu'il est possible maintenant aux États-Unis d'inverser la maladie. Alors dans cette maladie, il y a 7 stades, d'inverser la maladie jusqu'au niveau 5. Et rien qu'avec l'alimentation, les compléments alimentaires, l'entourage, l'amour de ses proches, les personnes ont inversé leur maladie. Avec ses 200 millions de neurones, l'intestin dialogue avec le cerveau et participe à la régulation de nos émotions. Je vais m'arrêter juste là. Sachons que, par exemple, si nous mangeons un aliment qui ne nous convient pas, et que après, par exemple, la pause de midi, on va manger, on mange, on revient, et un collègue peut nous dire quelque chose qui ne nous plaît pas. Et tout de suite, on va prendre la mouche. Est-ce qu'on n'a pas mauvais caractère ? Qu'est-ce qui s'est passé là ? Est-ce que ce qu'on n'a pas mangé à midi ne nous a pas irrité, qui fait que ben, quand le collègue va venir nous parler, on va mal le prendre ? Pour certaines personnes, qui ont une dysbiose intestinale. Oui. Oui.
Oui, je voulais dire, hier nous avons parlé du plan de deux repas par jour. Et dans mon expérience, toutes les fois, parce que c'est vraiment Dieu qui m'a conduite là, parce qu'à un moment je me suis retrouvée, alors qu'auparavant c'était pas ici, aimant plus le sucre que d'habitude.
Oui.
Jusqu'à en devenir addict. Et Dieu m'a montré très clairement, en mangeant le repas le plus important le matin, en choisissant de bons aliments, mon cerveau était tranquille, mes intestins étaient tranquilles et ne me réclamaient nullement de sucre. Et un deuxième repas en fin de journée où je mangeais des fruits en abondance, vraiment, j'ai la paix ainsi. Mais c'est vrai que chaque fois que je change de cadre, ou bien qu'il y a des gens qui interfèrent, qui viennent à la maison, tout est bouleversé et ça, je repars dans le système. Et je me suis dit, c'est certainement, parce que Dieu, il sait toutes choses, et c'est certainement ce plan-là qu'il a mis en place, puisqu'il nous dit le repas le plus important le matin. Et c'est certainement lui qui nous apporte le plus d'éléments nécessaires pour combattre... toutes les tentations de la journée.
Tout à fait. Oui. Tout à fait, tout à fait. Alors, ce que je suis en train de vous dire ne veut pas dire d'excuser l'attitude. Parce que je vous ai dit au départ que nous devons soumettre notre volonté à Christ. Tout à fait. Soumettre la volonté, c'est rentrer dans le plan de Dieu. Que ce ne soit pas nos émotions, que ce ne soit pas notre ventre, qui dirige notre cerveau, mais bien la volonté. On fait un choix de suivre le plan de Dieu. Tout à fait. Mais notre cerveau serait également influencé par des milliards de bactéries qui peuplent le tube digestif. De nombreuses études sont actuellement en cours pour mieux comprendre les liens entre microbiote intestinal et stress, anxiété, dépression, mais aussi la maladie de Parkinson ou d'Alzheimer. Ces recherches suscitent de grands espoirs quant à un meilleur diagnostic et accompagnement de ces maladies. Slide suivante. La servante du Seigneur nous dit ceci. Les tentations auxquelles Christ a résisté étaient celles que nous trouvons si difficiles à supporter. Elles se sont pressées sur lui dans la mesure où son caractère est supérieur au nôtre. Avec le poids terrible des péchés du monde sur lui, le Christ a résisté à l'épreuve sur l'appétit, sur l'amour du monde et sur cet amour de l'étalage qui conduit à la présomption. Telles étaient les tentations qu'Adam et Ève ont surmontées et qui nous ont si facilement vaincus. Là, la servante du Seigneur est en train de nous dire que le Christ a vaincu toutes les tentations auxquelles nous sommes oppressés. Et qu'il nous faut, par son aide, surmonter les mêmes tentations. Alors, effectivement, à une échelle moindre que lui, mais quand même. Slide suivante. Avec le Christ, comme avec le couple sacré d'Éden, l'appétit fut la base de la première grande tentation. Juste là où la ruine a commencé, le travail de notre rédemption doit commencer. Comme par l'indulgence de l'appétit, Adam est trompé. C'est donc par le déni de l'appétit que le Christ doit surmonter. Donc nous avons une victoire ici. Et pas des moindres.
Pas facile.
Pas facile. De soumettre notre volonté à celui du Seigneur. Mais Christ montre, regardez, j'ai vaincu.
Mais, pardon.
Oui.
Tout le temps où on mange comme on veut, on n'a pas de combat. Mais du jour où on essaye de soumettre, on décide de se soumettre à la volonté de Christ, c'est là que la bataille est évidente. On se rend compte, on se dit, tiens, oh, je croyais que j'étais tempérante.
Mm.
Et tout d'un coup, donc il faut passer par ce chemin-là.
Par ce chemin-là, donc cette prise de conscience.
Oui.
C'est quand on prend conscience de la chose qu'il y a un choix à faire
et
la bataille commence. Mais là, on a un appui. Il faut vraiment s'appuyer sur le Seigneur. Et il faut vraiment lui demander son secours, son aide, pour que dans notre vie, on puisse aussi vaincre sur cet appétit, sur cette explosion d'émotions, de caractère. Parce que nous voulons ressembler à Christ.
Je dis cela parce que il n'y a pas très très longtemps que je suis rentrée dans le plan de deux repas. Juste quelques mois. Et c'est parce que j'ai été contrainte. Dans un sens, quand vous avez certaines douleurs et autres, et que tu pries, le Seigneur te montre, voici le chemin, marche-y. Mm. Et c'est le chemin de la guérison.
Mm-hmm.
C'est le chemin du renoncement. Et c'est à ce moment-là que vraiment, on se rend compte de comment cette chair-là, elle est dépravée, pourrie.
Mm.
Et elle est incapable de se soumettre à Dieu. C'est seul l'Esprit de Dieu qui peut nous donner la victoire.
Mm.
On sait ce qui est bon, ce qui n'est pas bon.
Mm.
C'est seulement Christ qui peut nous donner la victoire.
Tout à fait.
Et il faut rentrer dans cette bataille avec Christ.
Mm.
C'est une bataille par laquelle nous tous, nous serons obligés de passer.
Tout à fait.
Pour obtenir la victoire.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Slide suivante. Que celui qui lutte contre la puissance de l'appétit se tourne vers le Sauveur dans le désert de la tentation. Voyez-le dans son agonie sur la croix, comme il s'est écrié, j'ai soif. Il a enduré tout ce qui nous est possible de supporter. Sa victoire est la nôtre. Amen.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.